Bonsoir à chacune et chacun. Je suis heureux de vous accueillir dans le cadre de l'Institut universitaire Saint-Luc pour les grandes conférences de l'IUSL. Et vous le savez certainement déjà parce que vous avez pu pour les uns ou les autres y participer. Nous choisissons un thème chaque année pour ces grandes conférences et nous avons cette année décidé de nous interroger sur la personne même de Jésus. En effet, à l'issue du 17e centenaire de l'anniversaire du Concile de Nicée-Constantinople, le pape Pie XI, le 11 décembre 1925, donc il y a à peine 100 ans, a institué une fête liturgique, celle du Christ roi de l'univers. Et le lien entre Jésus, qui est donc né de Dieu, Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, et aussi finalement sa royauté sur tout l'univers, nous a amenés en ce temps où nous avons célébré donc le 17e centenaire de ce concile, et donc les 100 ans de l'encyclique Quas Primas, qui institue donc la fête du Christ roi, à nous arrêter sur la figure de Jésus, à la question qu'il pose à ses disciples aussi, et pour vous, qui suis-je? Nous nous interrogeons donc à travers trois conférences. La première, comment concevoir cette universalité de Jésus-Christ, mais c'est le cas pour toutes les conférences. Et la première conférence a été avec monsieur le doyen de la faculté de théologie catholique de Lyon, Michel Younes, à laquelle donc cette faculté, l'IUSL, est jumelée pour les diplômes canoniques de notre institut, et ça nous a amené à envisager la foi en Jésus et le rapport à la pluralité religieuse. La deuxième conférence a abordé le thème de la création et donc les questions écologiques avec le père Xavier de Bénazé, chef de projet de recherche sur l'éco-centre spirituel jésuite du Châtelard. Et il nous a permis de découvrir comment Jésus est source d'espérance pour un monde en crise écologique et sociale. Notre troisième conférence porte sur le rapport entre Jésus et la raison et la foi. Et le Père Bonny va nous présenter notre conférencier, Martin Stephens, que je remercie d'avoir accepté de nous éclairer dans notre recherche. Martin Stephens, qui est philosophe et dont la conférence s'intitule Jésus, maître de la question, c'est déjà très alléchant. Et que dites-vous que dites-vous? Et vous, que dites-vous? Nous aurons un quatrième temps au mois de mai, comme on a déjà pris l'habitude les années précédentes. On finira ces cycles de grandes conférences, enfin, où on complétera ce cycle de grandes conférences par une pièce de théâtre se donner par l'association L'Onction, que vous connaissez certainement, et qui sera sur la tunique sans couture. Ça nous ramènera aussi donc à la figure même de Jésus.
Bonsoir à tous. Ecce homo. Voici l'homme. L'homme tant attendu. Il est enfin là. Le philosophe Martin Stephens, père de quatre enfants, spécialiste de Simone Veil. Il enseigne à Cagnes et il vient de Strasbourg. C'est un philosophe qui est croyant et pratiquant. Il croit et il pratique. Sa philosophie est donc imprégnée de la foi qui le porte. S'il devait se présenter lui-même, je ne sais pas s'il va dire tout ce que je suis en train de dire qu'il est, car le moi est haïssable, disait Blaise Pascal. Cher Martin, un jour, vous avez eu vent d'une prière de Martin de Tours, votre saint patron. Puisque votre philosophie aborde la thématique du consentement à la vie, alors vous allez bien vouloir consentir à ce que je reprenne ce qui s'est passé lorsque vous avez rencontré cette prière de Saint Martin de Tours. Vous consentez? Voilà.
Je consens.
Et d'abord, voici la prière. Mon Dieu, Si tu as encore besoin de moi, je suis ton homme. Mais si tu estimes que j'ai accompli mon devoir, alors, s'il te plaît, relève-moi de mes fonctions. Et maintenant, chers tous, voici ce qui s'est passé en Martin Stephens. À la rencontre de cette prière, je le cite. Et oui. Donc, si c'est fou, il peut m'arrêter. Je le cite donc. « Le jour où j'ai eu vent de cette prière, se sont envolées quelques idées sombres. » Dieu merci. « Petit cadeau de mon saint patron. Cette prière m'a soulagé un peu de la peur de mourir. Car elle nous dit ceci. La mesure de notre vie, ce n'est pas le compte inquiet de nos années. C'est l'épanouissement en nous de Dieu. » L'aventure terrestre dure autant que Dieu prononce notre nom en le mêlant à l'histoire du monde. Elle cessera comme s'éteint l'écho d'un appel. Nulle crainte à avoir pour qui consent à être l'outil dans la main de Dieu. Et vous ajoutiez, quand on marche à la suite de Jésus, on n'a plus 40 ans. On n'a plus 48 ans. On n'a plus 60 ans, ni 80 ans. On a le temps que l'on prend pour rendre service. On a l'âge incalculable d'une histoire d'amitié. On a la vie devant soi. Eh bien, j'ai retrouvé cet extrait dans l'un de vos ouvrages, Marcher la nuit. Cher Martin, vous êtes donc bienvenu. Bienvenue pour nous parler de Jésus. En tant que maître de la question, et d'abord, qu'est-ce que la question? Et comment Jésus est maître de la question? La parole est à vous, mais permettez-moi de dire que vous avez écrit pas mal d'ouvrages, et je voudrais en citer juste quelques-uns. D'abord, le petit traité de la joie, dont le sous-titre est « Consentir à la vie ». Ensuite, vous avez écrit « Vivre ensemble, la fin du monde », où vous posiez cette question essentielle. Si dans 5 minutes, c'est la fin du monde, comment devons-nous vivre, quoi? Vous avez écrit aussi « La vie en bleu », avec un sous-titre très intéressant. « Pourquoi la vie est belle dans l'épreuve ?» Les séminaristes savent bien que j'aime la phrase « La vie est belle ». En fait, c'est lui qui en est l'auteur.
Entre autres.
Oui. Marie comme Dieu la conçoit. C'est un autre ouvrage. Dieu après la peur. Et l'un des tout derniers s'intitule comme suit. Ce qui nous fait humains. Avec ce sous-titre qui dit presque tout. Une métaphysique des marges. C'est la marge qui tient la page, n'est-ce pas? Cher Martin, à vous la parole.
Comme vous le savez, Jésus, comme vous le savez peut-être, pose plus de questions qu'il n'en reçoit. Ce fait est assez intéressant pour nous. Jésus pose plus de questions qu'il n'en reçoit. On dit qu'il reçoit 307 questions. Donc, il reçoit 183 questions, pardon. Et qu'il en pose 307. Et 307, c'est à lui seul 1/10 des questions qui se trouvent dans la Bible. Dans la Bible, il y aurait, je dis il y aurait parce que je ne l'ai pas moi-même vérifié, et il y aurait 3294 questions. Voilà, donc Jésus est l'auteur de 307 de ces questions. Alors, on peut penser à cette blague juive d'un fils de rabbin qui dit à son papa, « Dis papa, est-il vrai que quand on pose une question à un juif, il répond par une autre question ?» Et le père dit « Mais dis-moi, qui t'a dit ça ?» Et de fait, vous avez au moins en tête l'échange entre Jésus et le jeune légiste avant la parabole du bon samaritain. Le bon samaritain lui demande comment avoir la vie, obtenir la vie éternelle. Alors Jésus, subrepticement, va enlever éternel, comme s'il fallait d'abord avoir la vie pour qu'elle soit éternisable. Mais avant d'en arriver là, Il lui dit, et toi, que lis-tu? Une question, réponse, une autre question. Et donc, rassemble deux commandements qu'on devait ici et là rassembler, mais n'empêche qu'il le fait en première personne. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ton intelligence, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Jésus aime cette réponse, lui dit donc, eh bien, fais ceci et tu auras la vie. Tu auras la vie. Et pour se justifier, nous dit-on, le jeune légiste lui demande, oui, aimez mon prochain comme moi-même, mais qui est mon prochain? Et là, Jésus raconte une parabole, celle du bon samaritain, que j'imagine vous avez un peu en tête. Déjà, répondre par une parabole, c'est à nouveau mettre l'autre dans la question. C'est pas le remettre en question, c'est le remettre dans la question. Et par une parabole qui, de toute façon, en fait, préparait une question. Et la question, c'est de qui cet homme, qui a été le prochain de cet homme? Qui a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Qui a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Cette question-là, elle est bouleversante. Pourquoi elle est bouleversante? Parce que cet homme se propose comme étant celui qui a besoin de se justifier et a besoin de... Enfin, il montre quelque chose qui est très beau, c'est qu'il est source du bien. Voilà, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus, en lui demandant, en répondant à la question « Qui est mon prochain ?» par celle-ci, « Qui a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ?» il fait quelque chose de bouleversant au sens où il dit ceci à cet homme, « Attention, ça n'est pas toi la source du bien, parce que si tu entends bien ma question, qui a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits, celui que tu dois aimer, eh bien, c'est le bon samaritain. » C'est-à-dire, celui que tu es, dans cette parabole, ça n'est pas le bon samaritain, comme tu penses peut-être l'être spontanément. Celui que tu es dans la parabole, c'est l'homme tombé aux mains des bandits. Je dois aimer mon prochain comme moi-même. Qui est mon prochain? Bon, je raconte l'histoire et je te demande qui a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits, c'est-à-dire celui que tu dois aimer comme ton prochain. C'est celui qui te veut du bien, c'est-à-dire dans l'histoire, tu es l'homme tombé aux mains des bandits. Et puis dans l'histoire, tu as un autre rôle que tu peux prendre, c'est celui de l'aubergiste, c'est-à-dire c'est celui qui va recevoir du bon samaritain, de Dieu lui-même, son prochain comme étant quelqu'un de blessé. Ce qui nous arrive quotidiennement, ce qui nous est arrivé quand nous avons uni notre vie à la vie d'un autre, nous avons été l'aubergiste de quelqu'un qui était sans doute notre aubergiste, puisque nous sommes arrivés les uns les autres pleins de blessures. Quand Jésus fait ceci, vous voyez, il y a l'humour juif dont je vous parlais il y a un instant, répondre à une question par une autre question, mais il y a aussi quelque chose de plus profond que on pourrait appeler l'ironie. L'ironie, c'est celle de Socrate. Alors, en préparant cette conférence, j'ai appris qu'il y avait plusieurs types d'ironie. Il y a celle de Socrate, l'ironie, la fameuse ironie socratique, lors de laquelle finalement, Socrate suggère par ses réponses que il faut se mettre encore en route, se mettre encore en question, que on n'a pas encore compris. Hein, l'ironie, c'est une figure de style, c'est une figure verbale par laquelle on dit le contraire de ce qu'on voudrait faire comprendre. Et donc, l'ironie socratique, c'est ça. C'est je découvre au contact de Socrate que finalement, je n'en sais encore rien. Mais il y a aussi l'ironie chez les Grecs, l'ironie de Sophocle. Alors, l'ironie de Sophocle, c'est par exemple celle du divin Tirésias qui dit à Œdipe, quand Œdipe lui demande de façon pressante de lui dire qui est cause de la peste à Thèbes, il lui dit mais tu parles contre toi-même. Et donc, il veut faire comprendre à Œdipe qu'en réalité, c'est lui qui est cause de la peste à Thèbes, puisque selon le mythe, c'est lui qui a tué son père et qui a couché avec sa mère. Deux types d'ironie, c'est-à-dire que celle de Socrate, c'est de nous faire découvrir notre ignorance, celle de Sophocle, qui a lieu dans la tragédie sophocléenne, c'est de nous mettre en chemin vers nous-mêmes, comme cause de ce qui nous arrive. Et il est vrai que Jésus, qui, quand on lui pose une question, répond par une autre question, Jésus, on pourrait le penser ironique. Hein, ironique au sens où, en effet, il veut faire comprendre, mais c'est le rôle de la parabole d'ailleurs, il veut faire comprendre, mais non pas en expliquant, mais il veut faire comprendre de biais, il veut faire comprendre non pas franchement, en disant à quelqu'un ses quatre vérités, même si ça lui arrive, hein, notamment avec les disciples où il s'énerve, mais il veut prendre le détour, faire le détour par l'intelligence de l'autre, afin que ce soit cet autre lui-même qui énonce la vérité, la parole de vérité. Vous avez je sais pas comment on doit dire, théologien, poète, écrivain, qui s'appelle Jean Grosjean. Je sais pas si vous connaissez. Oui, vous connaissez un peu. Oui, pas trop. Il a écrit un livre qui s'appelle L'ironie christique. Et on pourrait se demander ce que l'ironie de Jésus a de proprement christique. Alors, avant d'arriver là, je suis encore dans mon introduction, je voudrais vous dire que, en effet, il va falloir mettre de l'ordre là-dedans parce que toutes les questions de Jésus n'ont pas le même sens. D'accord ? Par exemple, elles ne sont pas toutes ironiques. Il y en a certaines qui le sont assez directement. Par exemple, quand il demande il a bien guéri 10 aveugles alors qu'un seul est revenu. Vous voyez, quelque part, il veut faire dire aux autres, tu en as bien guéri 10, et donc, il veut leur faire comprendre que peut-être, d'ailleurs, il dit à l'aveugle, ta foi t'a sauvé, que à l'aveugle qui est revenu. Il veut peut-être nous faire comprendre par là, vous voyez, d'où l'ironie qui chez Socrate était une maïotique, un accouchement de la vérité. Il veut sans doute faire comprendre que tous les autres ont été guéris, mais que seul lui est sauvé. Parce que seul lui est réceptacle du don qui lui a été fait. Puisque seul lui, d'ailleurs, peut-être seul lui reconnaît Jésus comme prêtre, parce qu'il dit, allez vous montrer au prêtre, et lui, au plein milieu du chemin, il fait demi-tour, mais il va se montrer au seul vrai prêtre. Donc, il a tout compris, mais les autres alentours n'ont peut-être pas tout compris. Et donc, Jésus pose cette question, en effet ironique, mais n'en ai-je pas guéri 10? Et pourtant, il n'y en a qu'un qui revient. Mais toutes les questions ne sont pas ironiques. Vous voyez, ne fallait-il pas que le Christ souffrit, dit-il aux disciples d'Emmaüs dans Luc. Voilà, question fort, fort intéressante. Mais quel est le statut de cette question? Crois-tu que je puisse faire cela? Ou croyez-vous que je puisse faire cela aux aveugles? Crois-tu que je puisse faire cela? Le crois-tu? Il pose la question à Marthe. Dans les questions, par exemple, et vous, en effet, et vous, que dites-vous? Que dites-vous que je suis? Ici, dans cette question, on va voir que c'est passionnant une question, parce qu'une question nous laisse de la place. Mais c'est vrai que dans cette question, moi j'entends quelque chose comme une inquiétude de Jésus. Une inquiétude, il ne fait pas que demander une information. C'est peut-être une information inquiète de savoir quel écho il laisse lors de ces 3 années de vie publique. Autre type de question. Pierre, m'aimes-tu? Ou alors, encore un autre type, pratiquement à l'opposé. Pourquoi me frappes-tu? Vous voyez, ça, c'est des questions de Jésus. Ou encore une qui est une grande question de Jésus, en général on l'oublie, c'est une citation du psaume 22, et puis elle s'adresse à son père, Eli, Eli, lama sabachthani, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ou alors, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, etc. Donc, vous voyez, il y a plusieurs types de questions de Jésus, et moi j'aimerais bien, pendant le temps qui m'est imparti, mettre un peu d'ordre là-dedans, ou plutôt essayer de nous frayer un chemin qui soit un chemin de vie à travers toutes ces questions. Je vais encore ajouter, avant d'en arriver là, que certaines affirmations de Jésus sont des questions, en réalité. Vous voyez, il y a non seulement les questions que Jésus pose, mais certaines de ces affirmations sont des questions. Dans Jean 6, 58, quand il dit « Voici le pain venu du ciel », non pas ce que Vos pères ont mangé et ils sont morts, car celui qui mange de ce pain ne mourra pas. » Je vous donne le commentaire que fait Jean Grosjean à propos de ce passage. Ce passage, dit-il, est écrit contre l'auréole des anciens qui encombre les cœurs, et il dit ceci à propos de l'effet que ça a dû faire sur l'assistance. « On vient de leur dire que Napoléon était un imbécile, que Vercingétorix était un froussard, que la Marne fut une boucherie inutile, etc. » Et Jean Grosjean nous invite, dans l'ironie christique, à mesurer à quelle profondeur leur culture et la nôtre va être dévastée par ce maître-là. Vous voyez, il y a des affirmations qui remettent, alors pour le coup, tout en question. Dire qu'il est le pain qu'on doit manger pour avoir la vie éternelle et que tous vos pères sont morts, c'est violent. En fait, c'est violent. Et d'ailleurs, Jésus, là encore, la question arrive, je ne sais pas si vous la voyez venir dans le texte, mais c'est pourquoi, il pose la question, non, cela vous scandalise-t-il ? Voyez. Sous-entendu, peut-être qu'il le faudrait. Et en même temps, il a la confirmation, puisque la plupart s'en vont, il ne reste que les 12 disciples, et là encore, cette question extraordinaire, et vous, ne voulez-vous pas partir ? Et vous, ne voulez-vous pas partir ? Une fois, lors de l'homélie de l'un de vos confrères, sur ce passage-là, ce confrère a dit, le père Jean-François, a dit, voyez, on peut prendre ça sur un ton du défi. Et vous, quand vous n'êtes pas parti, ce père-là disait, au contraire, dans son homélie, quelque chose qui m'a beaucoup marqué, il dit, au contraire, Jésus mesure à quel point, en effet, c'est scandaleux ce qu'il est en train de dire. Il mesure à quel point cela ne va pas de soi, et il mesure à quel point la foi, c'est incroyable. Le paradoxe de la foi, c'est que quelqu'un qui est plein de bon sens, qui est plein de charité, qui est plein de tendresse, avec qui vous avez envie d'être et qui vous dit « je suis le pain de la vie », et qui me mange aura la vie éternelle, c'est fou. Et de toute façon, se dire qu'il y a un Père qui prend soin de nous et qui ne nous laissera pas tomber, ça c'est une réponse de Jésus à la question des disciples, question inquiète sur la mort, et Jésus leur présente les oiseaux dans des cages que l'on vend, et dit « regardez ces oiseaux, on en vend 3 pour 2 sous, et pourtant il n'en est pas un qui tombe sans que mon Père, sans mon Père, dit le texte littéral, sans mon Père, c'est-à-dire au fond sans que mon Père soit avec lui. Et vous, qui valez beaucoup plus que des moineaux ou des passereaux, que craignez-vous ? » Et donc ça, cette bonne nouvelle est tout à fait folle, et Jésus sait que son affirmation « je suis le pain de vie, qui me mange ne mourra pas », c'est que son affirmation doit être une question, c'est-à-dire doit être quelque chose qui, eh bien, creuse en nous un espace qui n'existait pas avant, et un espace qui va mettre du jeu dans notre vie, un espace qui va sans doute faire de notre sol un peu solide, quelque chose d'un peu mouvant, afin que nous puissions nous mettre en mouvement. Donc, voici mon plan. D'abord, on va se demander dans une première partie, qu'est-ce qu'une question ? On va retourner la question contre elle-même et on va se demander ce que c'est qu'une question. Puis, dans un deuxième temps, on verra en quel sens précis Jésus en est le maître. Vous voyez, je suis obéissant au titre qu'on a préparé. Et enfin, on passera du statut du maître au statut du fils. C'est-à-dire comment, par ses questions, il se révèle à nous comme fils. C'est-à-dire comment vraiment ces questions, les questions que Jésus nous pose, nous engendrent. Socrate, il parlait de maïeutique, il disait « je suis ironique ». En effet, on disait qu'il était comme le paon qui n'arrête pas de nous harceler avec ses questions. Mais son but, c'était de faire le même métier que sa maman, qui était sage-femme, c'est-à-dire de mettre au monde la vérité que nous portons tous en nous, et c'est pourquoi il faut passer par le questionnement. Jésus va faire quelque chose d'encore plus radical, sa maïeutique, elle est existentielle, elle est spirituelle, il va s'agir pour lui de nous enfanter à sa suite comme enfants de Dieu. Et donc, j'aimerais bien en effet vous montrer comment toutes les questions que pose Jésus, alors on va pas toutes les voir, les 307, mais toutes celles que nous allons voir, et après vous ferez le travail vous-même. Et d'ailleurs, j'aimerais bien vous poser la première des questions, une fois que cette conférence sera finie. Quelle est la question, vous, de Jésus qui se pose particulièrement à vous et en vous, hein, qui se pose en vous comme si, quand vous l'aviez rencontré, vous aviez déjà un site préparé pour cette question. Bon, et j'aimerais bien donc montrer comment toutes les questions de Jésus convergent vers celle de ce soir, c'est-à-dire « Qui dites-vous que je suis ?» Si votre enfant vous demande, comme Calvin dans Calvin et Hobbes, « Tu penses vraiment que je vais manger ça ?» il veut pas votre opinion. Il vous dit qu'il jamais de la vie il va manger un truc pareil. Je crois que Calvin, dans la bande dessinée de Bill Watterson, doit avoir des épinards dans son assiette. Mais t'es sérieux? Es-tu sérieux? Vous voyez, es-tu sérieux? En général, quand vous posez cette question, vous voulez pas exactement une réponse. Vous voulez surtout signifier à l'autre qu'il dit n'importe quoi. Vous avez, par exemple, Jésus, quand il pose la question « À quoi bon ?» à quoi servirait un homme de gagner le monde si, etc. C'est une question rhétorique. Voilà, ça n'appelle pas de réponse. Mais s'il est un grand panel de questions, elles ont toutefois toutes un point commun. Elles se rassemblent toutes autour de cette définition, à savoir que parmi toutes nos paroles, la question est une parole qui laisse la parole. C'est une parole qui volontiers s'enrobe de silence. Et ça, ça va pas de soi. Ça va pas de soi. C'est une parole qui se tait. C'est une parole qui ne craint pas le silence, puisque, au contraire, à la fin d'une question, il y a un point d'interrogation, et que ce qui suit le point d'interrogation, normalement, c'est une réponse. Ça a deux fonctions, ce silence-là, deux vocations, ce silence-là, dont la parole, qui est la question, s'entoure volontiers. Première vocation, première fonction, il s'agit de laisser l'autre répondre. Il s'agit de laisser l'autre répondre. Une question vraiment posée se dépose. Vous voyez, quand vous posez vraiment une question, cette question se dépose comme on dépose un roi, c'est-à-dire comme on enlève à ce roi son pouvoir et son titre. Là, quand vraiment vous posez une question à l'autre, vous enchaînez pas par une autre question et encore par une autre ou par une petite anecdote sur vous. Quand vraiment vous posez une question, la question se dépose au sens où elle se pose là et elle attend patiemment. Quelqu'un qui s'est écouté d'ailleurs s'est enduré même le fait que le silence de l'autre peut être une manière de répondre. La question nous révèle que nous avons deux oreilles. Le corps humain est passionnant à lire. Nous avons deux oreilles. Quand nous posons une question quand nous posons une question et quand nous recevons un discours. Donc, tout homme a deux oreilles. Celui qui parle doit avoir deux oreilles. C'est-à-dire que quand je parle, il y a une oreille, on va dire l'oreille droite, qui reste près de moi, qui reste près de mon cerveau peut-être, ou je sais pas, en tout cas près de mes notes, une oreille qui essaye d'entendre ce que je veux vous dire. D'accord. Au fond, c'est très important que ça ne parle pas en moi n'importe comment. Et donc, il y a une oreille qui reste près d'ici. Et puis, il y a une oreille qui s'en va voyager. Et ça, c'est les bons conférenciers, mais c'est aussi les bons pianistes, les bons concertistes. C'est ceux qui écoutent comment on les écoute. C'est ceux qui écoutent comment on les écoute, c'est ceux qui, un bon concertiste, qui est capable d'entendre l'humeur de la salle, d'entendre l'écho de la salle. C'est-à-dire, il y a une oreille qui vient se poser sur votre oreille. Vous avez, en tant que philosophe, j'ai assisté à quelques colloques de philosophie, vous avez parfois, mais c'est la même chose, je crois, dans toutes les disciplines, vous avez parfois des gens qui tiennent tellement à ce qu'ils veulent dire qu'ils oublient de l'offrir. Ils tiennent tellement à ce qu'ils veulent dire qu'ils oublient de l'offrir, c'est-à-dire on leur dit « reste 5 minutes », ils disent « oh là là, déjà je ne l'ai fait que lire, mais je vais lire et encore plus vite ». Comme ça, au moins j'aurais dit « mais oui, mais est-ce que quiconque vous écoute encore ?» Voyez, quand quelqu'un parle, il écoute si on l'écoute. C'est pour ça, avant je culpabilisais de ma difficulté d'écouter certains bavards, et à un moment donné je me suis dit « non, ils sont difficiles à écouter parce qu'ils n'écoutent pas si vous les écoutez ». Et au fond, une fois, j'avais fait l'expérience de me soustraire un peu à une amie qui parfois est en monologue. Et d'ailleurs, elle s'est retournée vers le voisin de droite et elle a continué la conversation avec lui. En fait, peu importe qui m'écoute, je dis ce que j'ai à dire. Et en effet, pour que l'écoute naisse, il faut que celui qui parle écoute l'écoute qu'on lui porte. Je vais essayer de m'appliquer ça en m'arrêtant au bon moment quand je sens que vous êtes assez fatigué ou assez abreuvé de parole. Mais, et puis je crois vraiment que la question, c'est vraiment ça. La question vient illustrer magnifiquement le fait que quand on ne parle pas pour soi ou pour déposer ce qu'on a à dire dans la tête de l'autre. On ne parle que pour autant que l'autre nous écoute. Et d'ailleurs, parfois on dit, bon, c'est pas le moment, je t'en parlerai plus tard. Là vraiment, c'est qu'on écoute que l'autre ne peut pas nous écouter aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce que je viens de vous dire est vrai aussi de l'auditoire qui a aussi deux oreilles. Il y a une oreille qui va rester près de votre tête, de votre compromette, qui va dire, mais ce qu'il dit là, à quoi ça fait référence chez moi? Et ça, c'est tout à fait normal, mais s'il n'y avait que cette oreille-là, si vous étiez sourd d'une oreille, eh bien, ça veut dire que vous ne feriez que ramener la nouvelle parole à ce que vous avez déjà compris. Or, il y a une oreille baladeuse, une oreille qui ose se poser sur les lèvres de celui qui parle, c'est-à-dire il y a une oreille qui se risque à l'inouï, qui se risque à se laisser dire non pas ce qu'on a déjà compris, mais qui se risque à entendre, oui, l'inouï, ce que vous n'avez jamais entendu. Et dire, ah, mais d'accord, j'ai compris, mais ça m'a perturbé d'abord. Et d'ailleurs, une bonne question, c'est pas pour vous mettre la pression tout à l'heure, mais une bonne question dans une assemblée, c'est quand on sent que quelqu'un est en train de mesurer l'écart entre ce qu'il a compris et ce qu'il a entendu. Et au contraire, les questions, c'est de dire, bah oui, mais moi j'ai toujours compris ça et apparemment ça correspondait pas tout à fait. Bon, bah, très bien. Voilà, mais même si il n'y a pas de mauvaise question, comme je dis sans cesse à mes élèves. Donc, la première fonction de cette parole, qui est la question, c'est de laisser l'autre répondre. Hein, le dialogue, vous savez, notamment quand on travaille en équipe ou quand on travaille dans cette équipe qui s'appelle un couple, quand on conjugue notre vie conjugale avec quelqu'un d'autre, on se désespère toujours du malentendu. Or, le malentendu, c'est quelque chose d'extrêmement précieux, parce qu'en fait, on ne se parlerait pas si l'on s'entendait toujours et déjà. D'accord? Comme dans la chanson de Christophe, je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux, une histoire d'amour sans parole n'a pas besoin de protocole. Oui, mais une histoire d'amour sans parole, oui, est-ce que c'est une histoire d'amour d'ailleurs sans parole? Je crois pas. Si, toujours et déjà, vous avez capté ce que veut dire l'autre, eh bien, c'est parfait, mais en général, c'est un peu inquiétant. Et en fait, ça n'existe pas. En fait, on ne dialogue qu'à partir d'un malentendu premier et consenti. On dialogue à partir d'un malentendu possible et nécessaire, puisque le malentendu est la condition du dialogue. Et au fond, la question, c'est savoir que dans ma parole, il y a tant et tant d'imperfections. Il y a tant et tant de choses où l'autre n'est pas. Ou alors, dans ma parole, il y a tant et tant de choses qui n'ont pas pris l'autre en son sein. Et donc, poser une question, c'est pour la parole, faire l'aveu qu'elle n'est pas tout. Et donc, c'est ouvrir. La question est une parole blessée vers l'autre, on pourrait dire ça. Mais il y a une deuxième fonction de la question, il y a une deuxième fonction de cette parole en tant qu'elle s'enrobe, elle se nimbe de silence. C'est un peu plus profond. Je vous l'annonce et vous allez voir comment ça marche bien avec Jésus. Si vous ne comprenez pas du premier coup, c'est pas grave. La question, c'est une parole qui se tait parce que c'est une parole qui reconduit au mystère de la parole. C'est une parole qui reconduit au silence comme étant la condition de la parole. C'est une parole, la question, qui consent au silence parce que c'est une parole qui fait l'aveu que le silence est la condition de la parole et c'est une condition que toute parole recouvre. Dès que je me mets à parler, je brise le silence. Mais s'il n'y avait pas le silence, nous ne pourrions pas parler. Dans le bruit extrême, vous ne pouvez pas parler et pourtant, quand vous parlez, vous recouvrez le silence. Et il y a une loi passionnante en philosophie, qui est peut-être la loi de la métaphysique en général, qui est que la condition de possibilité d'une chose s'efface dans ce qu'elle rend possible. voyez, c'est pour vous, vous maintenir éveillé. La condition de possibilité d'une chose s'efface dans ce qu'elle rend possible. Vous voyez, la condition de possibilité des vivants, c'est la vie. Et pourtant, jamais vous croiserez un animal qui est la vie. La vie, qui est la condition de possibilité des vivants, s'efface dans chacun des vivants. Sans la vie, il n'y aurait pas des vivants. C'est très mystérieux, le passage de l'inanimé à l'animé. Et pourtant, la vie n'est pas un être vivant parmi les autres. Ça marche aussi avec l'être, bon, etc. Vous voyez, et donc, à chaque fois que vous avez un animal, un être vivant, vous avez jamais la vie. Et pourtant, sans la vie, il ne serait pas un être vivant. Eh bien, on va voir qu'avec la parole, c'est la même chose. Pour parler, j'ai besoin du silence. Et pourtant, cette parole fait que le silence n'est plus. De telle sorte que la parole fait quelque chose de très très beau quand elle sait se taire parce qu'elle reconduit à sa condition de possibilité. Exactement comme un tableau. Un tableau a besoin pour être de la toile blanche, c'est-à-dire le tableau a besoin de la lumière pour être. Et pourtant, dès que vous allez barbouiller votre toile, vous allez nier la lumière, vous allez l'occulter, vous allez mettre du sombre. Et donc, d'ailleurs, il y a des tableaux qui savent faire que ça, que nier la lumière, dire « regardez mon tableau, regardez comme il est beau ». Et il y a des tableaux qui, le sachant, comme la question parmi toutes nos paroles, il y a des tableaux qui, le sachant, vous font voir la lumière. C'est-à-dire que c'est des tableaux qui vont occulter la lumière pour vous la faire mieux voir. Il y a des poèmes, vous voyez, il y a une phrase de Christian Bobin que j'aime beaucoup, qui dit « Le problème de la phrase de Proust, c'est qu'elle se croit plus belle que l'aubépine qu'elle décrit. » Et c'est là sa faille, dit-il. Mais c'est peut-être son absence de faille, justement. Proust est tellement parfait que quand vous lisez Proust, vous n'avez plus besoin d'aller regarder les aubépines. C'est la littérature qui s'auto-congratule. Et quelque part, ça marche parce que c'est vraiment extraordinaire. Mais c'est vrai que peut-être qu'il faut sous-écrire parce que le poème est réussi qu'à condition de nous donner envie de voir l'aubépine. C'est-à-dire que écrire et contempler une aubépine, c'est deux choses différentes. Le moment où je me mets à écrire, j'entre dans le langage, je suis plus dans la contemplation de l'aubépine. Et pourtant, je dois écrire de telle sorte à rester toujours comme l'indicateur de l'aubépine. Vous voyez, je vous prends des exemples pour vous dire que je dois bien ne pas sentir l'aubépine, ne pas la contempler tout le temps pour écrire, mais écrire ne marche que si ça ouvre tant et tant de personnes sur l'aubépine. Sinon, écrire ne fait qu'occulter le passage vers l'aubépine. Il est très bon de peindre pour donner à voir la lumière, mais il y a des tableaux qui ne font que ramener la couverture à eux et couvrir le monde de leur barbouillage. Le tableau réussi est celui qui, ultimement, par un geste de politesse, dit « Mais moi seul ne compte pas, ne compte que la lumière que mon obscurité donne mieux de contempler. » Eh bien, pareil, il y a la question est une parole qui, comme on va le voir tout à l'heure, nous reconduit à une parole plus fondamentale, qui est la parole silencieuse qui nous permet de nous parler les uns aux autres, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et donc, Jésus, pour mettre de l'ordre dans toutes les questions qu'il pose, eh bien, Jésus, vous pouvez remarquer qu'il y aura toujours ces deux dimensions, qui sont d'ailleurs les coordonnées de la vie chrétienne et qui nous renvoient à la réponse du jeune légiste. Il y aura toujours dans Jésus le fait de poser une question pour que l'autre ait sa place, le prochain. Et il y aura toujours une manière de poser la question de telle sorte que le Père se révèle à travers cette question. Le Fils, en se manifestant, pourrait très bien occulter le Père, ce qu'il ne fait pas, car son autorité, ne renvoie pas à lui-même. Et cela passe par la question qu'il pose. La question, c'est une parole qui renvoie à l'autre, avec un petit a, à l'autre qui ne serait pas là, vraiment, si Jésus ne lui donnait la parole. Et ça renvoie non seulement à l'autre avec un petit a, mais à l'autre avec un grand A, à cet autre qui n'est pas là, le Père, précisément parce qu'il nous donne la parole. Parce qu'il est la parole silencieuse qui est la condition du Verbe, le Christ, et de tout échange de paroles entre nous. Donc, deuxième partie, en quoi Jésus est-il le maître de la question ? Je ne sais pas si vous avez fait votre devoir de chrétien, si vous avez lu la lecture du jour. C'est très très intéressant, c'est le chapitre 1 de l'évangile de Marc. Il nous est dit que Jésus enseigne et qu'il enseigne avec autorité. Alors on se dit, là est Jésus. Et d'ailleurs, ça réussit. Ça réussit tellement que dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui dit, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Donc l'enseignement, c'est ce qu'il faut faire, c'est cours magistral et ça sert à rien de poser des questions. En réalité, pas du tout, puisque si vous avez lu l'évangile du jour, vous savez que celui qui dit ça est un homme possédé. Il est possédé, et donc vous voyez, on pourrait dire, il confesse le Christ, mais en fait c'est que avec mille guillemets. L'homme est possédé et il possède un savoir. Je sais qui tu es, et non pas je crois, je confesse en première personne que tu es le Fils de Dieu. Je sais, il est possédé par un démon et il possède son savoir. Il n'a pas besoin de la question, il a la réponse. Et son savoir, qui est un savoir qui n'a pas été engendré par le Fils qui lui pose une question. C'est un savoir qu'il a, c'est un savoir immédiat. Eh bien, ce savoir lui est comme extérieur. Hein, le propre de l'ironie, que ce soit celle de Socrate, de Sophocle ou de Jésus, le propre de l'ironie, c'est que l'autre aille lui-même vers le savoir. Ici, cet homme est comme possédé par son savoir, il l'a immédiatement. On pourrait dire que son savoir lui demeure extérieur, et tellement extérieur que le geste de Jésus, c'est de l'expulser. D'accord ? D'expulser, de l'exorciser. Il expulse le démon. Il le remet à zéro. Il le rend vierge. Il le rend vierge. Et au contraire, Jésus, donc vous voyez, ce qui est décisif, c'est pas tant son enseignement que les questions qu'il pose. D'ailleurs, c'est très rigolo, il nous a dit qu'il enseignait, mais de son enseignement, si on a le sermon sur la montagne, mais ce qu'on va retenir surtout de Jésus, c'est ses interactions avec ses contemporains. Et c'est la question qu'il pose un peu en éducation. Ce que retiennent le plus les enfants, c'est pas les grands sermons, c'est le moment où on a vraiment parlé avec eux, même de la pluie et du beau temps. C'est ça qui, c'est les moments de relation qui vont retenir et qui vont les fortifier plutôt que les grandes généralités qu'on peut essayer de leur inculquer. Voilà. Jésus, où pose-t-il la question? Où dépose-t-il cette question, ces questions? À la fois dans un lieu qui sait. Ça, c'est vrai qu'il va révéler que, un peu comme Élisabeth, voilà, à l'approche de Marie, il y a quelque chose qui tressaille en elle, qui est Jean le Baptiste. Eh bien, au fond, il y a bien une maïeutique du Christ au sens où Jésus pose la question dans un lieu qui est comme préparé pour la réponse. Quelque part, Jésus vient mettre au jour un lieu où nous savons le don de Dieu. Sinon, ces questions seraient juste bizarres, elles exaspéreraient son auditoire. Or, les gens reconnaissent bien qu'il y a quelque chose de vrai. Mais à la fois, ce lieu-là, ce lieu qui est fait pour porter le prophète Jean, ou pour même carrément enfanter Dieu, ce Dieu-là s'ignore encore. Et il se découvre au contact de Jésus comme le lieu d'où Jésus peut venir naître. Jésus creuse en nous le lieu où nous pouvons l'accueillir. Et je suis assez fasciné par le fait que quand un enfant nous parle, même s'il dit des choses, voilà, ah moi en fait à l'école il y a une copine, elle s'appelle Blanche, mais j'ai aussi une Blanche au patronage et en fait c'est pas les mêmes, etc. En fait vous pouvez vous dire bon, c'est pas très très important tout ce qu'il raconte, c'est des anecdotes de petit enfant, j'ai mieux à faire et des choses d'adultes très sérieuses. Et pourtant, dans ces moments où l'enfant parle, le mieux que vous avez à faire, c'est de vous mettre à sa hauteur et puis de l'écouter. De l'écouter, raconter que ceci, cela, et que il connaît deux filles qui ont le même prénom et qui trouvent ça rigolo de s'appeler comme ça. Et parce que si vous ne faites pas ça, jamais l'enfant ne sera assez en sécurité pour aller plus loin et puis peut-être un jour tenir des grands discours philosophiques ou que sais-je. Eh bien, Jésus, au fond, en nous posant une question, nous dit « Ce lieu d'où la vérité va naître, il est déjà en toi et tu ne le sais pas et j'aimerais que tu le découvres et tu ne peux le découvrir que parce que je te pose cette question qui te dit « Va avec confiance le trouver ce lieu ». Les questions de Jésus, comme toute question intelligente, donnent à penser. Et ça me paraît très important de dire, c'est ce que je dirai demain aux lycéens de la Nativité à qui je vais parler aussi, ils ont des questions sur la liberté, etc. Mais voilà, par exemple, comment faire un choix ? Eh bien, en remarquant que le choix, on ne l'a pas choisi, on n'a pas choisi de pouvoir choisir, car le choix est quelque chose que nous avons reçu d'une culture où le choix est important. En fait, la liberté de faire à partir de soi, nous l'avons reçue par un autre qui nous a fait confiance. Eh bien, là, de la même façon, les questions de Jésus donnent à penser, parce que Jésus nous donne de devenir des penseurs. La pensée par soi-même, qui est un truc de Kant, hein, il faut oser penser, penser par soi-même, mais la pensée par soi-même n'est possible, c'est-à-dire la pensée à partir de soi, que parce qu'un jour, un autre que soi nous a dit « Ta pensée, si petite soit-elle, m'intéresse. » Donc, on pourrait dire d'ailleurs que l'enseignement de Jésus par la question continue l'œuvre de la création. C'est un chemin qui nous enfante comme première personne, au présent, comme étant ceux qui peuvent répondre à son message, à ses questions. L'homme qui sait, finalement, qui sait déjà, appartient au passé. Et son savoir n'est jamais qu'un constat de ce qu'il a déjà accumulé. Le maître Jésus, en tant que capable de la question, est un être capable de se démettre, vous l'écrivez avec deux T, c'est un maître capable de se démettre, c'est-à-dire de nous mettre en route vers nous-mêmes, et comme on va le voir dans la troisième partie, de nous laisser nous enfanter. Les questions de Jésus, on pourrait dire, c'est des énigmes. Dans l'énigme, ce qui est incroyable, c'est que vous avez finalement trois types de choses. Vous avez d'abord le problème, trois types de choses qui sont devant nous. Le problème appelle une solution. Hein, c'est question pour un champion. Vous avez la solution, super. C'est la fuite. Le plombier à la solution, à votre problème, et la solution vient dissolution, le problème. Et puis vous avez l'énigme. Et l'énigme, c'est passionnant parce que par l'énigme, dans la réponse, eh bien, cette réponse redevient une question, ou plutôt cette réponse est la question fondamentale. Je vais être trop long, mais je vous en donne deux, et puis, je vous donne deux types d'énigmes, par exemple. Une énigme qui est une belle histoire juive, d'ailleurs, de prêtre païen, le peuple juif est en exil, et qui demande à ce que soit construit le temple, et ça prend du temps, il y a des intempéries, alors ils disent qu'il faut, avant l'inauguration du temple, sacrifier un enfant pour le mettre dans les fondations du temple. Et il demande à ce qu'une mère vienne proposer son fils à l'immolation. Et toutes les mères s'y refusent. Pendant un jour, deux jours, trois jours, les prêtres sont en colère. Et ils passent d'un enfant à 10 enfants à sacrifier dans les fondations du temple. Et il y a un jeune enfant d'origine juive qui dit à sa mère « Écoute, moi je vais y aller de mon propre fait ». Elle dit « Mais nous, on n'y va pas », il y va quand même, et devant l'assemblée, il dit aux prêtres qu'il voudrait d'abord leur poser trois questions. Et il leur pose trois questions, assez simples en apparence. Qu'est-ce qui est le plus lourd ? Qu'est-ce qui est le plus léger ? Et qu'est-ce qui est le plus dur ? Les prêtres se concertent, la foule s'est rassemblée, ils disent oui, tu es bien sage pour nous poser trois questions, mais nous sommes plus sages que toi par notre vieil âge. Le plus lourd, on le sait, c'est telle pierre, voilà, machin truc. Bon, telle pierre, ils disent pas le plomb, mais on pourrait imaginer le plomb. Le plus léger, ce n'est même pas la fumée, c'est le duvet qu'il y a au-devant du col de telle race d'oiseau qui appartient, bon, etc. Et le plus dur, c'est le cristal. Et l'enfant dit, eh ben, fort bien, mais Comment pouvons-nous vous faire confiance, à vous, prêtre, si vous ne savez pas répondre à cette question élémentaire? Parce que le plus léger, c'est un enfant dans les bras de sa mère. Il n'est jamais complètement lourd. Le plus lourd, au contraire, c'est pour une mère d'aller donner son fils en sacrifice pour la construction du temple. Et le plus dur, c'est si des prêtres, ne sachant pas ça, exécutent tout de même leur ordre. C'est une énigme au sens où, quand on a la réponse, eh bien, cette réponse se renvoie et renvoyée à nous. Une fois, petite anecdote, mais qui vous dit ce que c'est qu'une énigme, mon fils Joseph rentre de l'école, il me dit « Papa, j'ai une énigme ». Il est devoir 7 ans. Et alors je lui dis « Bah, très bien, je m'attendais à pas grand-chose, à une devinette ». Mais une énigme n'est pas une devinette. Une devinette, il y a un petit problème et la solution vient. Voilà, ah, j'ai deviné. Une énigme, la réponse devient elle-même une question qui vous est posée comme elle fut posée à ces prêtres-là. Et il me dit « Papa, t'es dans ton véhicule, à droite t'as un fossé, à gauche t'as un bus qui va à la même vitesse que toi, derrière toi t'as un hélicoptère en rase-motte, et devant toi t'as un cochon qui fait la taille de ton véhicule. Qu'est-ce que tu fais ?» Alors je dis oh, « Tiens, elle est bizarre son énigme. » Alors je dis donc je me déporte. « Non, il y a un fossé à droite. » Donc il y a un camion de pompier qui va à la même vitesse que moi, l'hélicoptère, je fonce dans le cochon. Bon, il dit non, tu cries papa, je veux descendre du manège. Et vous savez quoi, c'était une vraie énigme. Pourquoi? Parce que c'est mon fils qui me demande ça, et c'est mon fils qui me renvoie à un fils qui crie vers un père. Papa, je veux descendre du manège. Et combien de fois depuis, d'ailleurs, depuis 12 ans, mon fils a-t-il été pris, comme tous les adolescents, dans des manèges, dans des cercles infernaux, et il a su crier vers moi. Et quelque part, par cette énigme, c'est-à-dire par une réponse qui, en fait, redevient une question, ah, c'est fou, cette réponse ne vient pas clore, cette réponse vient me mettre en route, exactement comme Oedipe. Il lui demandait qu'est-ce qui est à 4 pattes le matin, à 2 pattes à midi, à 3 pattes le soir. Il répond l'homme. Il se dit ouais, j'ai devinette, sachant qu'il y a des milliers qui ont été dévorés avant. Mais ils sont nuls. Non, en fait, Oedipe, il lui est dit que la réponse était encore une question, parce que lui, il a répondu. Mais en fait, qui va mêler les 3 générations dans un instant? Qui va mêler la première, 4 pattes, la deuxième et la troisième, si ce n'est lui en épousant une femme qui pourrait être sa mère et qui est, en l'occurrence, sa mère. Bon. Donc, vous voyez, ça, c'est l'énigme. Mais au fond, Jésus, eh bien, c'est précisément ce qu'il fait. Il nous met par ses questions les personnes répondent, eh bien, la réponse s'adresse tellement à eux que, eh bien, comme nos 3 énigmes, au fond, c'est soit père, pour celle de l'énigme du manège, soit prêtre, vraiment, soit prêtre non sacrificiel, ou en tout cas pas de cette manière-là, pour la 2e énigme, et soit fils pour Oedipe, qui va bientôt tout confondre. Et donc, ça c'est Jésus. Alors, je vais passer un peu tout ce que je voulais vous dire, parce que y a beaucoup trop, et je voudrais arriver, sans monopoliser toute la parole, à ma 3e partie, mais quand même vous dire que précisément, ce qui est très touchant dans la manière, le style de Jésus, c'est que véritablement, il préfère non pas que la réponse corresponde à ce qu'il attend, ça n'est pas ça qui l'intéresse, il veut qu'il y ait une réponse. Une réponse qui vienne du cœur, et la preuve, c'est qu'il se laisse toucher, Jésus, par les réponses qu'on lui fait. Le jeune homme riche, Jésus est touché par lui, mais c'est pas une question de... Mais Jésus est surpris par la réponse du jeune légiste, par exemple. Ou il est, à mon avis, admiratif par la réponse de la cananéenne. Ou carrément, avec les aveugles, il est admiratif. Alors ça, on va s'interroger dessus dans un instant. Il est admiratif quand il leur dit « Mais que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils disent « Mais que nous voyons, mais c'est une bande d'aveugles. » Vous voyez, mais c'est logique. Eh bien, Jésus exulte, est admiratif quand il quand il entend cette réponse, et puis la suite, vous la connaissez. Mais tout ça pour dire que s'il se laisse toucher, surpris, débordé par la réponse qui lui est faite, c'est que on est vraiment dans cette parole qui se tait assez pour laisser la place à l'autre. On est dans cette vertu étonnante du Christ qui est la néscience. La néscience, c'est un terme inventé par les théologiens pour rendre compte du fait que le Christ ne sait pas tout. Hein, comme voilà, qui m'a touché, demande-t-il, quand la femme, comment ça, il ne le sait pas, mais il n'est pas omniscient. Ou alors le fait que Jésus confesse qu'il ne sait pas quand aura lieu la fin des temps, que seul le Père le sait. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette néscience? Qu'est-ce que ça veut dire par le fait que Jésus est surpris, c'est-à-dire pris par excès, par la question qui pas par la réponse qu'on lui fait? Qu'est-ce que ça veut dire si ce n'est que c'est un Dieu d'amour? C'est-à-dire un Dieu qui a vraiment créé le monde. Le monde n'est pas quelque chose qu'il a déjà calculé par avance et il sait tout. Non, il l'a vraiment créé, donc ce monde peut le surprendre. Que Jésus s'est vraiment incarné, donc il entre dans notre chair, il ignore des choses et il est vraiment en vis-à-vis. Et là encore, il ne calcule pas d'avance. Et que vraiment, il y a une différence réelle entre les trois personnes de la Trinité, parce que la Trinité est relationnelle et donc le Père n'est pas la même personne que le Fils, et donc c'est pour ça que le Fils peut ignorer quelque chose que le Père sait. Donc voyez, les questions de Jésus ne sont pas des questions pièges, c'est des questions qui font jaillir l'essentiel qui nous lie actuellement, c'est-à-dire la relation. La relation. Hein, il y a Dietrich Bonhoeffer, le fameux pasteur qui est mort exécuté par Hitler en personne. Hein, c'est un des derniers ordres que donne Hitler. Il pendait le pasteur. Et Dietrich Bonhoeffer, dans un des textes qui s'appelle « Qu'est-ce que dire la vérité ?» dans son livre « Éthique », il raconte l'histoire d'un professeur qui interroge l'élève. Et donc l'élève se met debout devant toute la classe. Il lui dit « Dis voir, petit Hans. Ton père avait bu encore hier soir ?» Et Hans répond « Non, maître, il se rassoit. » Et l'instituteur prend tout le monde à témoin et dit « Le père est un ivrogne et le fils est un menteur. » Et Dietrich Bonhoeffer, il dit « Est-ce qu'il s'agissait de dire la vérité de la part du petit enfant ?» Il dit « Pas du tout. » Pas du tout parce que le maître n'a pas fait jaillir la vérité dans les conditions d'énonciation correctes pour qu'elle jaillisse. Il n'y avait pas d'amour. Il n'y avait pas d'amour. Et en effet, c'est pas la même chose que l'instituteur qui dit tu viendras me voir à la fin du cours et qui lui dit mais d'ivoire hier j'ai entendu au village ton père il avait. Et là l'enfant il peut mentir, il comprendrait même que par pudeur il ment. Mais là, au fond, il est invité à dire la vérité parce que la vérité c'est d'abord la vérité de l'amour. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup cette idée qu'un point d'interrogation, vous savez, fait comme un abri. Par rapport au point d'exclamation, qui est un point, comme dans la louange, qui est un point qui comme un feu d'artifice, monte le ciel. Bon, le point final met un terme définitif. Le point de suspension, c'est comme une question qui ne sait pas trop s'arrêter, qui est incertaine d'elle-même. Dans la vraie question, on met vraiment l'autre à l'abri de notre parole. Et on lui dit que tout va bien et qu'il peut se tenter. Tenter d'entrer dans cette parole. Hein, et la preuve que Jésus préfère la relation, je vais vous en donner deux très très vite et je passe à ma troisième partie dont je ferai ma conclusion. Ça, il me reste 10 minutes, c'est ça?
15 minutes, 20 minutes.
Oh là là, bon. Je veux pas trop vous prendre et j'essaye d'écouter votre écoute ou de regarder vos yeux. Deux preuves que Jésus, par la question, nous indique que le plus important, c'est le prochain, c'est l'événement du prochain. C'est dans « Pierre, m'aimes-tu ?» Vous connaissez tout ça à la fin de Jean. En fait, d'abord, il dit « agapas », c'est-à-dire « m'aimes-tu d'agapé, m'aimes-tu d'un amour fou ?» Et Pierre répond simplement « philo », « je t'aime d'un amour d'amitié ». D'accord ? Est-ce que tu m'aimes passionnément ? Ouais, je t'aime bien. Il repose la question. Pierre, m'aimes-tu, agapas? Et Pierre répond à nouveau, je t'aime, mais au sens de philo, au sens de l'amitié. Et troisième question, Jésus lui demande philei. Est-ce que tu m'aimes au sens? Et Pierre, un peu triste, lui dit, oui, je t'aime philo. Et Jésus dit, mais il viendra un temps où tu me donneras tout. Là, c'est pas le moment. Mais ce qui prime, c'est la relation. La preuve, c'est que je t'ai mis la barre là et je l'ai descendue pour qu'on soit ensemble là où tu es actuellement. Et non pas là où je suis, puisque moi, je viens de donner ma vie pour vous. Moi, je suis dans l'agapé. Pas de question sans confiance qu'on fait à l'autre. Et faire confiance, c'est toujours prendre sur soi la confiance qu'on a faite à l'autre. C'est-à-dire que si l'autre l'a trahi, mais c'est moi qui t'ai fait confiance, donc c'est mon affaire, c'est mon affaire. Et ultime preuve pour vous, pour enfoncer le clou, si je puis dire, c'est que Jésus met de la question, c'est-à-dire met de la relation, là où il n'y en a plus du tout, c'est-à-dire dans la violence. Qu'est-ce que c'est que la violence? J'ai réfléchi une fois en me disant, mais est-ce que c'est possible de définir la violence, alors que la violence, ça fait tellement mal qu'on n'a pas les mots pour la dire. En fait, si, c'est très simple, la violence est un rapport sans relation. Voilà, un rapport sans relation, si quelqu'un vous frappe dans la rue, il est en rapport avec vous, mais il n'est pas en relation avec vous. Si quelqu'un vous cambriole, il est en rapport avec votre intimité, il est dans votre chambre à coucher, mais il n'a pas été invité. Il n'est pas en relation. La violence, c'est un rapport sans relation. L'indifférence, vous êtes là, vous n'écoutez pas votre enfant qui vous pose 5 fois la même question, vous êtes en rapport avec lui, mais pas en relation. Quelque part, c'est violent. Eh bien, qu'est-ce que c'est que la non-violence? C'est la relation. Qu'est-ce que c'est que la prière? D'ailleurs, parfois, c'est la relation sans rapport. Quand on parle à ce Dieu qui n'est pourtant pas sous la main, comme qui a un doudou. Bon, bref. Et dans la violence, Jésus demande en effet, pourquoi me frappes-tu? Il met de la relation là où il y a un rapport sans relation. Ou alors, Judas, est-ce par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme? Il pose la question, il insiste. Bon, mais il y a encore plus profond et ça sera mon dernier temps. Plus profond, c'est la deuxième fonction de la question que je vous ai indiquée tout à l'heure. Indiquer la parole silencieuse dont toute parole emprunte sa puissance, ou à laquelle toute parole emprunte sa puissance. C'est-à-dire indiquer le Père d'où le Fils parle. Pour Jésus, se taire, c'est s'interdire de parler à partir de soi. Alors, on l'a dit tout à l'heure, la condition de possibilité de la parole n'est pas une parole parmi d'autres. La condition de possibilité de la parole, c'est Dieu, c'est le Père qui créateur, c'est-à-dire que la possibilité de la parole, la condition de possibilité de la parole, ce n'est pas une parole parmi tant d'autres, c'est ce qu'on entend quand on fait silence avec quelqu'un et qu'on se dit « ça parle encore, ça parle encore ». Une fois, on m'a dit « mais quel était votre premier maître en philosophie ?» Et sur le coup, m'est tout de suite venue l'idée d'Elisa, qui était une petite fille trisomique et autiste, que mes parents avaient accueillie un temps, mais à un temps à plein temps pendant 3 ans, et pendant que nous étions petits-enfants. Et lors de grands moments passés avec elle, je voyais bien que nous communiquions en deçà ou au-delà, c'est selon, en deçà ou au-delà de toute parole échangée, puisqu'elle ne pouvait pas accéder au langage. Et au fond, j'étais en contact avec cette parole première qui nous lie en amont de toute parole. Et finalement, c'est quoi le bavardage? C'est quand précisément quand nos paroles recouvrent cette parole première et qui se tait pour nous laisser parler. Voilà. Dieu, qu'est-ce que c'est au fond? C'est une réponse plus grande que toutes nos questions. C'est une réponse plus grande que toutes nos questions. Et d'ailleurs, même la question pourquoi, la question voilà de Jésus sur la croix, pourquoi m'as-tu abandonné? Même le cri contre Dieu est encore un cri que Dieu autorise pour que nous nous lions à lui. Au fond, toutes nos questions sont toujours et déjà enveloppées, et même la grande question pourquoi, dans un parce que premier, dans le fiat créateur. Dans le fiat à partir duquel nous avons la vie et qui est une vie faite de paroles. Et donc, on cherche Dieu dans nos questions, sans doute, mais c'est lui qui permet la question, c'est lui qui la rend possible. Il est, donc je vous ai dit, problème, solution, c'est une première manière de voir les choses. Il y a aussi énigme, dont la réponse est encore une question mais posée plus en profondeur. Et il y a enfin cette troisième chose qui est le mystère. Le mystère, c'est le mystère de la parole même. Le mystère, c'est, Gabriel Marcel, il disait, le problème est devant nous. Le mystère, c'est ce en quoi nous sommes. Et Jésus ne demande pas parce qu'il a la réponse, mais il demande parce que la réponse nous a. Ou plutôt, il nous pose des questions parce que la réponse nous a toujours déjà eues et qu'il veut seulement, par la question qu'il nous pose, nous dire ce qui m'importe, c'est ta réponse, parce que ce qui m'importe, c'est de demeurer chez toi, avec toi. Donc le but, ça n'est pas d'être d'accord. Le but, c'est de savoir que l'accord nous précède depuis toujours. Et c'est pourquoi vous avez des passages très, très étonnants où Jésus pose une question à propos de certaines choses évidentes. N'êtes-vous pas parti? Ben non, apparemment nous ne sommes pas partis. Ou que voulez-vous voir? Et Jésus exulte. Mais alors que c'est évident qu'ils veulent voir, ils le viennent pour ça. Mais en fait, dans ces moments-là, Jésus s'émerveille de la confiance des aveugles, de la confiance des disciples, c'est-à-dire, il fait son job de fils qui est de s'émerveiller du Père, c'est-à-dire, il s'émerveille des traces de la Trinité sur la terre. Ces aveugles, évidemment, qui veulent voir, mais ce qui est important, c'est pas qu'ils veulent voir, c'est qu'ils lui font une confiance absolue. Et finalement, la confiance, c'est la vie trinitaire. Le Père se donne absolument, le Père, il est tout, il ne manque rien, qu'est-ce qu'il va garder pour lui? Il donne tout à son Fils, il confie tout à son Fils. Et le Fils se reçoit absolument du Père, ils sont consubstantiels pour cette raison d'ailleurs, il se reçoit absolument du Père, il est dans la confiance absolue. Et au fond, Jésus nous pose ce genre de questions pour parce que, en fait, n'êtes-vous pas parti, c'est rendez-vous compte. Ou que voulez-vous voir? Ben, rendez-vous compte de la confiance que vous me faites. C'est fou. Au fond, c'est fou. Et même, par exemple, dans la question, pourquoi êtes-vous troublé aux disciples alors qu'ils viennent de le voir passer, ressusciter? Ou alors, ne fallait-il pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais pourquoi êtes-vous troublé? C'est un Jésus qui dit, mais au fond, vous saviez, si vous viviez trinitairement, si vous viviez dans le miracle, si vous mesuriez le miracle qu'est cette vie, et que si vous réalisiez que dès le début, c'est la confiance qui vous a faite, mais même très terrestrement, très humainement, si vous n'aviez pas rencontré une mère pour prendre soin de vous, un père pour s'intéresser à vos paroles, eh bien, vous ne seriez pas ni vivant, ni en train de parler. Et donc, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait une maïeutique encore plus radicale que celle de Socrate. Il nous enfante dans la Trinité par ses questions. Il nous enfante dans la Trinité, et c'est pour ça qu'il demande à Marthe pourquoi. Crois-tu cela? Crois-tu cela? C'est-à-dire, je vais te proposer d'être enfanté à partir d'une confiance. Et donc, pour conclure. Pour conclure et vous donner la parole, je vais finir sur la croix. Enfin, pas moi. Je vais finir par la croix. On verra, hein, peut-être que la journée, je vais finir sur la croix, l'histoire. Mais je vais finir par la croix, par le fait que la croix est la question par excellence. C'est là où le Verbe se tait, absolument. Il a crié. Le logos, le Verbe, est devenu logos désarticulé, inarticulé, un cri, puis un silence. Et la croix, c'est vraiment « Et vous, que dites-vous que je suis ?» La croix, c'est vraiment « Pierre, m'aimes-tu ?» La croix, c'est vraiment « est-ce que vous allez m'aimer jusque-là » jusqu'à ce Dieu défait, mais qui par cette défection, par cette défaite, vous dit que il est amour. Est-ce que vous allez m'aimer jusque-là? Et c'est très intéressant d'ailleurs de voir que le don de l'eau et du sang, c'est même après la mort de Jésus que ça a lieu. Et que la confession, la profession de foi du Romain, c'est après, du centurion, c'est après la mort. C'est après la mort, c'est-à-dire quand le Verbe s'est tu, quand il est entré dans un silence, dans le silence. Et donc, la croix, c'est la question par excellence, celle qui nous est posée en permanence. Et c'est très intéressant de se dire que si Dieu passe par là, c'est qu'il est très très intéressé par nos réponses. Très 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 intéressé par nos réponses. Le récent docteur de l'Église, le cardinal Newman, parlait de grammaire de l'assentiment pour dire que face à l'expérience énorme de la foi et face au mystère qu'est la foi, eh bien les hommes ont répondu de façon différente. Regardez les cultures, regardez les époques, et il n'y a pas une. Enfin, c'est des manières. Chaque culture répond dans son style. Et s'il y a un développement du dogme, c'est peut-être que la réponse se fait de plus en plus radicale, de plus en plus profonde, mais à chacun selon, eh bien, la capacité qui est la sienne, le temps qui est le sien, parce que c'est un Dieu qui, en se taisant, eh bien, nous dit « Bienvenue ».